J'aurais une question. C'est bon ? Une question sur la. Pardon, c'est moi. Oui, la place, la conception que les Français libres à Londres avaient de la, du droit de vote, en particulier pour les femmes. Est-ce que l'idée, parce que les femmes ne votaient pas évidemment avant la Seconde Guerre mondiale, avant 1945-1946, comment est-ce que l'idée du vote des femmes a été fait son chemin dans la France est libre ? Et puis, le même ordre d'idée, est-ce qu'il a été envisagé, quelle place a été envisagée pour les membres des peuples colonisés ? C'est-à-dire qui avaient participé à l'effort de guerre aussi. Le statut des peuples colonisés a-t-il été discuté également à Londres ?
Alors, et en ce qui concerne le droit de vote, donc, c'est De Gaulle personnellement qui le premier l'a exprimé. Parmi les Français libres. On discutait pas beaucoup politique. Hein. La majorité des Français libres étaient au Proche-Orient et ils se battaient contre les Allemands et les Italiens. Ils discutaient pas beaucoup de politique. Mais le vote des femmes a été discuté à l'Assemblée consultative d'Alger. Et la majorité, pas la totalité, la majorité était pour, sauf les représentants d'une partie de la gauche, représentants du parti radical et certains socialistes qui craignaient que le vote des femmes influencé par les curés ne ramène la France à droite. Mais enfin, la majorité à l'Assemblée consultative était favorable au vote des femmes. Au vote des femmes, oui, oui. Alors, en ce qui concerne le problème colonial, et là, il faut distinguer les deux phases. La phase française libre, proprement dite, Londres, et la phase Alger. Dans la phase française libre, proprement dite, le Comité national français de Londres et le général de Gaulle avaient autorité sur l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, et puis sur les colonies françaises du Pacifique. L'Afrique équatoriale française était sans aucun doute la plus arriérée au point de vue culture des colonies françaises. Le gouverneur général Éboué, le seul gouverneur des colonies qui se fut rallié au général de Gaulle en 1940, descendant de noir et descendant d'esclaves lui-même, a instauré des réformes qui étaient des réformes libérales pour ce qu'il appelait les évolués. C'est-à-dire, disons, pour donner des droits politiques locaux aux gens ayant, aux hommes ayant un niveau à peu près équivalent au certificat d'études. Ce qui était, pour l'Afrique équatoriale, un progrès pas négligeable. La vraie question coloniale s'est posée à Alger lorsque le général de Gaulle a organisé la conférence de Brazzaville qui portait précisément sur l'avenir de l'Empire colonial français. Les députés à l'Assemblée législative, à l'Assemblée consultative, avaient été sidérés de découvrir en Algérie un régime colonial. Ils ne pensaient pas que le régime était celui, pratiquement était celui-là. Et donc l'esprit à la conférence de Brazzaville, était un esprit globalement libéral. Mais Et le discours du général de Gaulle est superbe. Enfin, vous le retrouverez superbe dans sa vision d'avenir, émancipation. Bon. Cela dit, il y avait. Les gens étaient partagés, les représentants étaient partagés. Et une des questions qui se débattait était celle de savoir s'il fallait faire une fédération française ou maintenir avec une représentation en France une administration directe. Le problème le plus intéressant et le problème majeur, c'est celui des pays d'Afrique du Nord. Pour l'Afrique du Nord, le général de Gaulle a annoncé en décembre 1963 une réforme qui consistait à donner le droit de vote, en dépit de leur statut musulman, à 65 000 Algériens, autochtones algériens de plus. Mais le comité national français était partagé. Le général Catroux, dont on parle très peu, qui est très peu connu, qui est en réalité une très haute figure, qui était qui avait passé sa carrière en pays arabe, et considérait qu'il fallait faire ce qu'il appelait un nouveau décret de Caracalla. Le décret de Caracalla, certains d'entre vous le savent peut-être, est celui par lequel l'empereur romain Caracalla avait aboli l'esclavage dans l'Empire romain. Donc, il a fait une proposition qui était de donner les droits civiques à tous les Algériens. La question a été discutée au Conseil national. Un certain nombre de représentants, notamment Pleven et je ne sais plus quel était l'autre, s'y sont opposés en disant que c'était au peuple français à en décider, que des réformes d'une telle importance, donc donner le droit de vote et la citoyenneté à tous les Algériens, d'abord risquait d'amener au Parlement français 100 députés algériens, et que d'autre part, un gouvernement qui était un gouvernement tout de même en exil, représentant la France légitimement, entre guillemets, mais non pas du fait d'un vote populaire, n'avait pas qualité pour se prononcer sur une réforme d'une telle importance. Et de Gaulle, donc, a estimé devoir se contenter de cette libéralisation donnant les droits civiques à 65 000 Algériens. Mais il se rendait compte des aspirations algériennes. La défaite de 1940, puis l'espèce de protectorat américain sur l'Algérie avait considérablement atteint le prestige français et l'autorité française aux yeux des Algériens. Et les Algériens, d'autre part, ont joué dans la campagne d'Italie et dans la campagne de France un rôle éminent. Ils représentaient, les Nord-Africains autochtones représentaient la moitié du corps de débarquement débarqué en Provence. Sur les 7 divisions, les effectifs algériens et marocains représentaient la moitié. Un homme comme Ben Barka, qui a été donc premier président, si je me souviens bien, ou chef de l'exécutif de la République algérienne libre, avait été sergent dans l'armée française, décoré 2 fois par De Gaulle. Des hommes comme lui considéraient que la France devait payer, enfin libérer en conséquence. De Gaulle en était très conscient, et au moment du débarquement en France, il a donné des consignes strictes au général Martin, chargé de la responsabilité militaire de l'Afrique du Nord, en lui disant « Ne laissez pas l'Algérie nous filer entre les doigts ». Ce qui était tout de même singulier. Et cela dit, dans les mois qui ont suivi, il y a eu d'une part une famine en Algérie, d'autre part le général Catrou, qui veillait au grain, a été nommé ambassadeur à Moscou. C'est donc toute la machinerie administrative française, le ministère de l'Intérieur pour l'Algérie, le ministère des Affaires étrangères pour le Maroc, qui ont repris les rênes et qui n'avaient pas été sur place et qui ne se rendaient pas compte de la situation. D'où cet épisode affreux qu'a été le 8 mai 1945, le massacre de Sétif. Donc, la France libre et les représentants de la résistance ont eu une prise de conscience certaine, sans que ça aboutisse sur le moment aussi vite que cela aurait dû. Et il faut dire que le général de Gaulle, par la suite, sous la 4e République, a freiné à la fois la libération de l'Indochine et la libération de l'Algérie. Occasion manquée, hélas.